journée, tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga. 103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité. Denis Zungrana.
Bonjour et bienvenue à cette édition. Bonne nouvelle pour les entreprises locales. Le Conseil des ministres a décidé que désormais les entreprises minières privilégient les entrepreneurs locaux dans les fournitures du matériel minier. La tension reste vive en Alger et Rabat. L'Algérie a décidé hier de la fermeture immédiate de son espace aérien à tous les avions civils et militaires marocains. En football, le championnat national de première division du Burkina Faso porte désormais le nom de Ligue 1 à Lounabé. Lutte contre la corruption dans le domaine de la justice, le bâtonnier Maître Paulin Assalambéry invite les avocats à une autocritique et les citoyens à une prise de conscience en dénonçant tout acte de corruption. Il est notre invité. Je vous en parlais en titre, désormais les entreprises minières auront l'obligation de faire profiter les entrepreneurs locaux dans les fournitures du matériel minier. C'est l'une des décisions majeures qui ressort du Conseil des ministres tenu hier. D'autres décisions sont à noter comme le déblocage de 15 milliards de francs CFA pour la rénovation du stade du 4 août. Plus de précisions avec Chalda et Moumouni à Tamboura.
À la table de ce Conseil des ministres s'invite le dossier sport. Désormais, la mise aux normes du stade du 4 août sera une réalité. Fermé depuis mars 2021, le stade du 4 août sera rénové à un coût de plus de 15 milliards de francs CFA. Ousseyne Tamboura, porte-parole du gouvernement.
Le premier est relatif à la conclusion de marché par la procédure d'entente directe pour les travaux de réhabilitation et de mise aux normes du stade du 4 août de Ouagadougou au profit du ministère des Sports et des Loisirs. Le Conseil a marqué son accord pour l'attribution du marché à un groupement pour un montant de 14 695 661 francs CFA en TTC avec un délai d'exécution de 11 mois. Le suivi contrôle est assuré par le groupement Gretec SARL pour un montant de 564 122 945 francs CFA TTC avec un délai d'exécution presque voisin donc de 12 mois.
L'activité minière d'ampleur au Burkina Faso, mais les entreprises locales ne profitent pas assez. Le gouvernement, à travers un décret, voudrait que les sociétés minières, à travers la chaîne d'achat, réservent un certain nombre de pourcentages aux entreprises locales. Bachir Ismaël Ouedraogo, ministre en charge de l'énergie.
Les ressources minières qui constituent donc le premier produit d'exportation au Burkina Faso puissent réellement bénéficier donc aux entreprises locales. Je puis dire qu'aujourd'hui c'est un grand jour pour notre secteur parce qu'avec ce décret, les sociétés minières maintenant ont obligation dans la chaîne donc d'achat de réserver un certain pourcentage pour les entreprises locales et de faire de telle sorte que cette manne-là que nous avons pu réellement bénéficier aussi aux Burkinabés.
Au terme de ce conseil, le gouvernement, par un décret, autorise l'organisation du baccalauréat par le ministère en charge de l'éducation nationale.
Et pendant que le gouvernement se penche sur la rénovation du stade du 4 août, la mairie de Ouagadougou se penche pour sa part sur la ceinture verte qui depuis quelques années n'est plus si verte. Une situation qui est due à une forte occupation de l'espace par des habitations illégales et une dégradation avancée du couvert végétal. Fort de ces constats, le bourgmestre de Ouagadougou repositionne la revalorisation de la ceinture verte comme priorité de son mandat à travers un projet dénommé Appui à la revalorisation de la ceinture verte. La mairie est aidée dans ce projet par l'association intermédiaire francophone. La signature de convention du projet a eu lieu hier à Ouagadougou. Régis Bonny et Jean-Paul Ouedraogo pour le compte-rendu.
L'appui à la revalorisation de la ceinture verte de Ouagadougou vise entre autres à promouvoir sur ce territoire les cultures maraîchères aux côtés de la foresterie classique et à appuyer l'autonomisation des femmes en charge de l'entretien de la ceinture verte. Ce projet, qui a pour groupe cible les femmes maraîchères et les pépiniéristes, se propose de revaloriser 20 hectares de la ceinture verte de Ouagadougou. Armand Bewende, maire de Ouagadougou.
Avec les 20 hectares, nous comptons installer à peu près 8000 femmes qui vont s'occuper non seulement des arbres qui vont y être plantés et également pouvoir faire du maraîchage pour subvenir à leurs besoins. Donc vraiment nous sommes très heureux aujourd'hui.
La signature du projet d'appui à la revalorisation de la ceinture verte arrive au moment où se tient une grande conférence sur la forêt et le projet sera présenté devant les délégations internationales lors de la conférence internationale sur les changements climatiques qui se tiendra en novembre prochain. Pierre Baillet, secrétaire permanent de l'Association internationale des maires francophones, AIMF.
On montre qu'à travers les forêts, on peut associer les populations, c'est-à-dire on humanise ce dossier. Ce n'est pas simplement une simple ceinture verte, c'est aussi tout un ensemble qui tourne autour de la forêt et des associations locales pour faire du maraîchage et des cultures vivrières.
Environ 225 millions de francs CFA sont nécessaires pour la mise en œuvre du projet d'appui à la revalorisation de la ceinture verte. La durée totale du projet est de 24 mois.
Et nous restons avec la mairie de Ouagadougou qui a révélé hier qu'environ 200 tombes sont hors bon âge au cimetière de Taptenga et de Zaktoulim. Dans un communiqué, la mairie précise qu'elle se réserve le droit de procéder à l'exhumation et à la réanimation des restes mortels si les parents ne prennent pas attache avec la direction des pompes funèbres dans un délai de 2 semaines. Ces tombes ont été identifiées lors d'une étude entrant dans le cadre des travaux de construction de la clôture des 2 cimetières. Hors de nos frontières au Bénin, c'est une rencontre entre l'ancien président Boni et le président Talon qui fait la une. L'ancien président Yayou Boni, revenu depuis quelques jours à Cotonou, a en effet été reçu en audience hier par le président béninois Patrice Talon. Les deux leaders politiques ne s'étaient pas rencontrés en tête-à-tête depuis 2016. Après plusieurs épisodes de rivalité, la rencontre entre les deux hommes politiques ne laisse personne indifférent. Latifou Boni est notre correspondant à Cotonou.
Une parfaite orchestration à la sortie comme au démarrage de la rencontre entre les deux hommes, la mise en scène presque cinématographique. La rencontre s'achève comme elle a démarré, sourire, les Béninois en voulaient, ils sont servis avec des mesures. Derrière la mise en scène, la rencontre elle-même a permis à Boni Yayi de poser plusieurs problèmes d'ordre politico-judiciaire. L'ancien président est président d'honneur d'un parti politique dont plusieurs cadres sont derrière les barreaux. Accusé de terrorisme, il a plaidé pour leur libération. Plusieurs poids lourds politiques et économiques sont en exil. Là encore, Boni Yayi a plaidé tous des exilés politiques. Signe d'un changement de discours, Boni Yayi précise aux médias, je cite, « Moi je demande, c'est lui qui décide ». Quoi qu'il en soit, la rencontre Patrice Talon-Boni Yayi est un grand événement. Depuis 2016, le début de la présidence Talon, lui et Boni Yayi ne se sont vus qu'une fois et c'était en Côte d'Ivoire. Les présidents du Togo et de la Côte d'Ivoire avaient tenté à l'époque de désamorcer la rivalité, née autour de 2013 quand Boni Yayi consommait encore son deuxième mandat. Depuis, aucune rencontre entre les deux, sinon une adversité nourrie par médias et partis politiques interposés. 2019, à ce jour, 3 élections ont eu lieu et les partis politiques proches de Boni Yayi ont brillé par leur absence. Les conséquences ont été extrêmement conflictuelles avec plusieurs morts dans certaines parties du centre et du nord du pays où l'ancien président jouit encore d'une grande popularité. Des antécédents, la vive rivalité, les violences post-électorales, les exilés derrière les caméras et la mise en scène, durant les 50 minutes, les deux hommes ont eu beaucoup à dire. Les Béninois attendent des actes pour voir la paille se tourner et un retour aux préoccupations actuelles qui sont la sécurité alimentaire avec un panier de la ménagère qui s'amenuise au vent des caprices du climat et des affres de coronavirus. Latif Boni Cotonou, Radio Omega.
L'ambiance se dégrade de plus en plus entre Alger et Rabat. Les autorités algériennes ont en effet décidé hier de la fermeture immédiate de l'espace aérien du pays à tous les avions civils et militaires marocains ainsi qu'aux appareils immatriculés au Maroc. Selon la présidence algérienne, cette décision fait suite à la poursuite des provocations et des pratiques hostiles de la part de Rabat. Une décision qui est prise alors que le pays est dans le deuil. Décédé hier, l'ancien chef de l'État algérien Abdelkader Ben Salah sera inhumé aujourd'hui. Âgé de 79 ans, il est décédé à la suite d'une longue maladie, selon ses proches. Il a assuré un intérim de 8 mois en 2019 après la chute de l'ex-président déchu Abdelaziz Bouteflika. Selon la présidence, Ben Salah sera inhumé après la prière de la mi-journée au cimetière d'El Alia, à une dizaine de kilomètres à l'est d'Alger, la capitale.
La revue de presse.
On parle politique dans la revue de presse de ce jour avec le congrès du MPP, le parti au pouvoir, et les retrouvailles entre Talon et Yayi Boni au Bénin. Brigitte Yoda.
Le congrès du MPP, prévu pour ce vendredi, fait les choux gras des quotidiens du jour. Le parti au pouvoir face à son destin, s'exclame le quotidien, pour qui le parti au pouvoir devra faire face à ce qui apparaît comme un conflit latent de générations, opérer un toilettage des textes réglementaires lors du renouvellement de la direction politique nationale du parti. Le journal Le Quotidien pense en effet que ce grand parti est devenu depuis quelques mois le réceptacle de toutes les tendances politiques de notre pays et le point de chute d'hommes et de femmes politiques en perte de vitesse et à la recherche d'un nouveau souffle. Aujourd'hui, au Faso revient quant à lui sur la rencontre hier entre le président béninois et son prédécesseur. Rencontre Talon Yayi, enfin la paix des braves au Bénin, s'interroge notre confrère. Le pays salue d'entrer l'acte qualifié de hautement politique et pédagogique par notre confrère, même s'il dit ignorer les motivations réelles d'une telle rencontre. Le journal pense qu'au plan personnel, ces retrouvailles sonnent comme une véritable catharsis qui libérera ces deux os unis qu'elles ne les séparent. Faut-il le rappeler, les deux hommes furent des amis et Yayi Boni ne serait pas devenu ce qu'a été sans Patrick Talon et vice-versa, commente le journal des 1200 logements. Le Bénin a besoin de l'ensemble de ses fils et filles pour se construire, car les guéguerres politiques et autres rivalités ne contribuent en rien à relever les défis du développement qui se pose renchéri Sidoya dans sa rubrique « L'autre regard ». Terminons par le 61e anniversaire de l'indépendance du Mali, célébré hier. Quand le calendrier électoral et Wagner jouent aux troubles fêtes, titre l'observateur Palga, qui constate qu'à la place de la bombance, le Mali était face à une équation sous forme de dilemme. D'un côté, la CEDEAO qui met la pression sur les unités de transition pour respecter leur engagement à la date des scrutins présidentiels et législatifs, qui doivent en principe intervenir en février 2022, et d'autre part, la casualité de la classe politique qui ne veut plus entendre parler de la prolongation de la transition. Relate le doyen des quotidiens. S'ajoute l'affaire Wagner, surgit des dunes, empoisonnant aujourd'hui les relations entre le Mali et ses partenaires traditionnels, termine l'Obs.
Omega Sport.
Championnat national de première division du Burkina Faso porte désormais le nom de Ligue 1 Lonabine. La nouvelle appellation et le logo ont été dévoilés ce matin à Ouagadougou. Football toujours, auteur d'un doublé, Franck Lassina Traoré a offert hier soir la Super Coupe d'Ukraine au Shakhtar Donetsk face au Dynamo Kiev. Score final à 3-0.
L'invité du jour. L'invité du jour.
Les avocats de l'UMOA tiennent depuis mardi dernier à Ouagadougou leur deuxième congrès, placé sous le thème « Justice et corruption ». À cet effet, nous recevons comme invité Maître Paulin Assalambéré, bâtonnier du Burkina. Interrogé par Brigitte Oda, il invite les avocats à une autocritique et les citoyens à une prise de conscience en dénonçant notamment tout acte de corruption.
Maître Paulin Assalambéré, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous tenez depuis mardi votre deuxième congrès des avocats de l'UMOA, un congrès qui prend d'ailleurs fin aujourd'hui. Il se tient sous le thème « Justice et corruption ». D'abord, dites-nous, quelle définition vous donnez à la corruption ?
Il faut dire que le thème central, c'est « Justice et corruption ». La corruption, de façon générale, c'est lorsque on sollicite ou on agrée des sommes ou autre chose pour un travail alors que cela est indu. Lorsque vous devez accomplir un acte et qu'on vous sollicite donc l'établissement de cet acte, si cet acte n'est pas payant, vous ne devez pas recevoir de l'argent pour établir cet acte.
Et pourquoi ce thème « Justice et corruption » ?
Je pense que c'est un thème d'actualité et notamment ces dernières années, la justice est décriée, pas seulement au Burkina, mais un peu partout. La justice est soupçonnée d'être au cœur de la corruption relativement à certaines décisions qui sont rendues, à tort ou à raison. C'est la raison pour laquelle donc nous avons pensé qu'il était utile de nous retrouver, de réfléchir sur la thématique et voir quelles contributions les avocats pourraient apporter donc éventuellement à solutionner ce mal qui est vraiment un fléau pour nos économies.
Vous l'avez dit, la justice est décriée. Pour le RENLAC, la justice est le maillon faible de la lutte contre la corruption. Le RENLAC avait également, dans un de ses rapports, dénoncé une justice à deux vitesses, estimant que lorsqu'il s'agit de punir les petites gens, la justice est prompte et sans pitié. À l'opposé, quand il s'agit, par exemple, de puissants hommes d'affaires, la justice devient comme paraplégique. Qu'avez-vous à dire à ce propos ?
Il est difficile de se prononcer relativement à ces conclusions du RENLAC parce que, voyez-vous, pour une infraction similaire, les peines peuvent être différentes parce que les circonstances de l'accomplissement de ces infractions influent également sur la décision rendue par nos juridictions. Ce qui fait que lorsque nous n'avons pas connaissance exactement des faits d'un dossier, on se prononce de façon générale, mais lorsqu'on va dans les détails et qu'on prend connaissance des éléments du dossier, on peut comprendre pourquoi, pour une même peine et pour une même infraction, les juridictions n'ont pas appliqué la même peine. Voilà, il y a des circonstances atténuantes, il y a des circonstances aggravantes. Donc, ce n'est pas parce que le citoyen lambda a l'impression qu'il a fait une faveur aux personnes nanties. C'est le dossier qui détermine donc les décisions rendues par la juridiction.
Alors, que faire pour que le citoyen lambda n'ait pas cette impression-là?
Je pense qu'il faut communiquer. C'est la communication. Maintenant, il appartiendra donc, lorsque je dis à la justice, c'est pris dans sa globalité. Donc, que ce soit les magistrats, les avocats, les notaires, les huissiers, tous les acteurs de la justice doivent pouvoir faire passer une communication pour d'abord faire comprendre aux citoyens lambda quelle est l'activité de chaque profession, comment chaque acteur de la justice doit se comporter. Et je pense que cela va amener les citoyens lambda à mieux comprendre et à avoir donc des positions plus réservées par rapport à une décision de justice.
Alors, votre collègue du Togo, le président de la conférence des avocats de l'UEMOA, a parlé de conscience et de discernement des avocats pour lutter contre la corruption. S'agit-il d'une autocritique?
Oui, c'est une autocritique. Faut pas qu'on se voile la face. Il est certain que parmi nous, il y a des avocats qui s'adonnent à ces pratiques. Et il faudrait d'abord que nous remettions en question, que nous remettions au jour le serment que nous avons prêté pour exercer cette profession. Parce que, comme vous le savez, le maillon de la justice est très sensible. Et lorsque ça ne va pas au niveau de la justice, également cela a des conséquences négatives même sur la société et sur l'équilibre même.
À l'ouverture de votre deuxième congrès, vous avez dit que pour lutter contre la corruption, il faut travailler en synergie. Qu'entendez-vous par travailler en synergie d'action?
Oui, en synergie, c'est tous les acteurs de la justice, les citoyens lambda et également les autorités. C'est un travail commun parce que un pan de la société ne peut pas lutter contre la corruption pendant que l'autre pan fait autre chose.
Alors le citoyen, comment est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il doit faire?
Il doit dénoncer d'abord. Je ne pense pas que ce soit ancré dans tel ou tel secteur d'activité, mais le plus souvent c'est le citoyen lambda qui va vers donc celui qui est chargé de fournir le service pour lui proposer une rétribution indue. Donc cela commence par une prise de conscience donc de la population. Il faut savoir que si vous allez au palais de justice, vous avez besoin d'un casier judiciaire. Au niveau donc du service du palais de justice, tout est indiqué sur les coûts et les délais de délivrance donc de ces documents. Si, nonobstant cette information qui vous est partagée, vous allez aborder un personnel du tribunal et vous lui proposez 5 000, c'est de la corruption, c'est comme cela que cela commence. Donc si déjà le citoyen lambda a un comportement civique probe, je pense que nous arriverons donc à vaincre cette corruption.
Maître Paulin Salambéré, merci.
Merci.
Notre invité, le bâtonnier Maître Paulin Salambéré. Fidèle Compaoré à la technique, Chalda à la retransmission web, Denis Zungrana à la présentation. C'est ici que prend fin ce journal. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, le journal en langue morée.
Radio Omega, l'info en direct.
Écoutez Radio Omega, 103.9 en fréquence modulée. Nous sommes au 4e étage du centre commercial Laïco sur l'avenue Pascal Zagré à Ouaga 2000. Infoline 226 63 63 61 61 63 63 36 36 25 37 59 67. Radio Omega, l'info en temps réel.
Befa nyamba kelega da sonra tara pasgo kelega da Radio Omega konta popela Radio Omega kelen zekda kwese nampusi amfagil barka isitisonga ninga sayane tum no ninga suboti kantar TNS bamseman gela mikemeti wakat fagili Radio Omega kelega da sonra atara pasgo to pelega do poa de Radio Omega Rasma yo po pou konfa gili Radio Omega kelgat ba sonra tara a pasgo. Tum non ni nefsu bonti variante group bam mwini gemeti Radio Omega bam soman gela. Mike meti wakat fa gili Radio Omega kelgat ba sonra a tara pasgo an yidu wason lore. Ral ya wakat ntati Radio Omega na zenka kwe son pouwa kelgat ba fa gili barkusko nefsi kison wanyinga. Tia nyamba kelgat ba nkiti Radio Omega ya pipi Burkina Faso kane sinke nekibe kison wenge. Ti Radio Omega Zekra Kweka Mnam Pusi Fajil Baraka. Radio Omega, ya Radio Pang Sempahar Wakat Fajili, ya Radio Sia Pipi Radio Burkina Faso Kasin Kien Nekibe Chiso Weng.
Buruaram Sora Lange Binere Kam Ninga Kara Sora Lange Yale Binere Kam Ninga Kara Buru Arab Sora Lange Binene Kam Ninga Kara Sora Lange Binene Kam Ninga Kara Foya Buene Lao Toi Fopatolon Wum No Kamye Fopatolon Sakar Walie Laya Tum Lao Zara Fopatolon Zekar Boudu Zouye Sobo kagom na lamore, bewa sangin tomate lemde. Tuba jiri zugu saka ninkim fopa wogre bamye. Tufosunda talaf manda.